Il est 22h01 sur Europe 1. Et tout de suite, le journal de la nuit.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, les candidats dans les starting blocks à 24 heures du débat d'entre-deux-tours. Jean Castex en soutien à Emmanuel Macron dans le Nord. Marine Le Pen dénonce le chantage à la peur dans une vidéo sur Twitter. Pendant que Jean-Luc Mélenchon rêve d'un troisième tour pour la gauche aux législatives, élisez-moi Premier ministre, lance-t-il aux Français. Vous l'entendrez. Deliveroo condamné en France au pénal pour travail dissimulé. La plateforme de livraison de repas doit verser une amende record. La fin prochaine du ticket de caisse fait tiquer des associations de consommateurs. Nous verrons pourquoi ce geste pour la planète ne fait pas l'unanimité. Le temps demain sera perturbé sur la moitié sud, des éclaircies sur le reste du pays. Un invité politique à 22h15, je recevrai Jean-Paul Garot, porte-parole de Marine Le Pen. Il serait son ministre de la Justice si elle était élue. Et puis juste avant la libre antenne, les unes de la presse à 4 jours du premier tour.
Europe 1.
Prière de ne pas déranger. Pendant 24 heures, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne seront plus là pour personne. Seul le premier cercle a accès aux candidats qui se préparent au duel de demain, au débat de l'entre-deux-tours. D'ici là, plus question pour les candidats de faire des déplacements, mais Emmanuel Macron était représenté aujourd'hui dans le Nord par son Premier ministre Jean Castex et son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Vous les avez suivis à Halluin, Arthur Delaborde.
D'abord une visite dans une entreprise spécialisée dans le tissage du lin depuis 1835, puis une déambulation avant une réunion publique. Ce type de déplacement sur le terrain, Jean Castex connaît bien. Il confie en avoir fait environ 340 depuis qu'il est à Matignon. Ici à Halluin, c'est l'un de ses tout derniers, l'occasion pour le Premier ministre de dresser une forme de bilan de ses échanges avec les Français.
On en tire toujours beaucoup d'enseignements, surtout quand on est Premier ministre, qu'on est au front. Il est indispensable, vous m'entendez bien, indispensable de se ressourcer, de ne jamais perdre le lien avec nos concitoyens.
Dans cette commune d'Halluin, Marine Le Pen est arrivée en tête avec plus de 30% des voix au premier tour. Il s'agit donc pour Jean Castex et Gérald Darmanin qui l'accompagnent de convaincre les habitants d'aller voter dimanche pour Emmanuel Macron, d'où ce message martelé sur ces terres du Nord par le ministre de l'Intérieur.
Ne cassons pas la dynamique de recréer les emplois industriels. On réouvre des usines dans le Nord et c'est grâce à Emmanuel Macron.
Et avant de présenter la démission de son gouvernement dans les jours qui vont suivre le second tour, Jean Castex effectuera en fin de semaine son tout dernier déplacement en tant que Premier ministre. Ça devrait être dans sa région, en Occitanie.
Arthur Delaborde à Halluin, à la frontière belge pour Europe 1. Marine Le Pen a choisi de son côté de s'adresser aux électeurs dans une vidéo publiée en fin d'après-midi sur Twitter. À 24 heures de son face-à-face avec Emmanuel Macron, la candidate RN étrille le quinquennat du président sortant. Elle semble déjà y poser les termes du débat de demain soir. Et en même temps, Victor Chabert, Marine Le Pen cherche à rassurer sur sa candidature.
Exactement. Tout d'abord, Marine Le Pen attaque le bilan d'Emmanuel Macron, responsable selon elle du délitement de l'État, et met en avant le sursaut collectif qu'elle dit vouloir incarner par la défense des services publics ou la reconquête de la souveraineté nationale, avant de dénoncer les tentatives de diabolisation dont elle estime être victime de la part du président sortant.
Emmanuel Macron a fait le choix de l'invective et du chantage à la peur. La peur, c'est en effet le seul argument qui reste à l'actuel président de la République pour tenter de se maintenir à tout prix. La peur comme ressort paralysant, comme moyen désespéré de vous empêcher de réfléchir et de choisir en votre âme et conscience. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, en tentant de faire passer l'immense aspiration populaire que je porte pour un danger pour la République, c'est que vous n'êtes pas des enfants.
Avec cette vidéo, Marine Le Pen veut se poser en protectrice des Français, montrer qu'elle défend les services publics, la sécurité sociale. Il y a une volonté d'apaiser les craintes, notamment des classes populaires. D'ailleurs, elle le martèle dans sa conclusion. La candidate qualifie sa candidature de celle du rétablissement du consensus républicain, de la cohésion nationale ou de la justice sociale et de la paix civile. Une réponse claire à la diabolisation que tentent d'infuser ses adversaires.
Marine Le Pen sera placée à droite de l'écran demain soir. Elle sera aussi la première et la dernière à prendre la parole au cours de ce débat d'entre-deux-tours. Ainsi, on a décidé un tirage au sort. D'autres détails ont filtré sur l'organisation du débat. Le pouvoir d'achat, eh bien, ce sera le premier thème abordé demain soir. Ici encore, il a fallu trancher par tirage au sort puisque Marine Le Pen et Emmanuel Macron n'étaient pas d'accord sur le thème d'ouverture. Je vous donne rendez-vous demain soir 20h sur Europe 1 pour suivre cette grande soirée politique. politique avec la rédaction, nos éditorialistes, les enjeux du débat d'entre-deux-tours que nous diffuserons en direct et en intégralité. Il est le troisième homme du scrutin, éliminé au premier tour, mais fort d'un score de 22%, de très loin le meilleur à gauche. Jean-Luc Mélenchon, lui, se projette déjà dans l'après-présidentielle. Le candidat malheureux des Insoumis avait gardé le silence depuis le lendemain du premier tour. Invité ce soir sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon lance un appel aux électeurs en vue des législatives.
Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Il y a un troisième tour.
Un troisième tour à l'occasion des législatives. Nous savons tous, bien sûr, que le Premier ministre n'est pas élu, mais à travers cette formule volontaire, on entend Jean-Luc Mélenchon espérer une cohabitation si la gauche devait être majoritaire à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon ne sait pas encore s'il sera lui-même candidat à ces législatives. Sera-t-il candidat dans 5 ans, en 2027 ? Je ne crois pas à ça, répond le leader des Insoumis qui fêtera bientôt ses 71 ans.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
La justice met un coup d'arrêt aux pratiques de Deliveroo, la plateforme de livraison de repas condamnée aujourd'hui à une amende record par le tribunal judiciaire de Paris, 375 000 euros pour travail dissimulé. Les juges sont allés en fait au maximum de ce que leur autorise la loi. Les livreurs ont été reconnus victimes de salariat déguisé, Caroline Baudry.
Oui, employés comme indépendants, mais sollicités, pressurisés et sanctionnés comme peuvent l'être des salariés. Une fraude mise en place pour employés à moindre frais, avait estimé la procureure. La plupart des 113 coursiers constitués partie civile ont en parallèle saisi les prud'hommes. Silver, par exemple, étudiant, sillonne sa ville depuis 5 ans sous les couleurs du célèbre kangourou turquoise. Il espère être requalifié en CDI.
Il y avait un lien de subordination concret. Si par exemple j'étais un peu lent, c'était possible qu'on m'appelle et qu'on me dise « Où es-tu ?» Si on ne respectait pas une règle, on est radié en gros de la plateforme. Ce qui nous pousse à aller plus vite et ce qui nous pousse à avoir des accidents. J'en ai eu pas mal. Pendant un mois, je ne vais pas travailler. Pendant un mois, je ne vais pas être rémunéré. Donc j'espère que ça va changer.
Deux ex-dirigeants de Deliveroo ont été chacun condamnés à un an de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Un autre cadre jugé complice écope lui de 4 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Pour maître Kevin Mention, avocat des coursiers, c'est un signal fort envoyé à toutes les plateformes qui reposent sur ce modèle.
À partir du moment où le travailleur, vous le traitez comme un salarié, vous devez en tirer toutes les conséquences, payer les cotisations sociales, accorder des congés payés et puis les protéger en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles, etc.
Cette décision de justice devra être affichée durant un mois devant les locaux de l'entreprise et sur la page d'accueil du site internet, précise le tribunal. Deliveroo conteste catégoriquement le jugement et se réserve le droit de faire appel.
Caroline Baudry, j'en viens maintenant à la guerre en Ukraine qui est entrée dans une nouvelle phase la nuit dernière. L'armée russe pilonne le Donbass, ce territoire de l'Est ukrainien, reconnu comme indépendant par Vladimir Poutine. C'était juste avant le déclenchement de la guerre. Et c'est ce qui fait dire aujourd'hui à Moscou que l'armée russe vient en libératrice dans le Donbass. Écoutez le témoignage de Yulian, un habitant de Kramatorsk où la gare avait été bombardée. Toute sa famille s'est enfuie. Mais Yulian, lui, a décidé de rester pour aider les derniers habitants alors que la ligne de front se rapproche.
Chaque jour est de plus en plus difficile. Il y a quelques jours, ils étaient à plus de 50 km de la ville. Hier, 40 km. Ils se rapprochent un peu plus tous les jours. La situation est vraiment dure, vraiment violente. Il y a de plus en plus de soldats russes. Ils nous bombardent, des missiles, des roquettes et ainsi de suite. Aussi longtemps qu'on pourra rester, nous resterons. Et aussi longtemps que nous pouvons aider les gens, nous le ferons. Beaucoup de civils sont morts, beaucoup de bâtiments civils ont été détruits. Des familles ont été détruites. Ici, tout s'écroule pour les gens, leur monde, leur maison et leur futur.
Un Ukrainien de Kramatorsk, joint par Mathieu Limongi. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. La Russie annonce avoir mené une dizaine de frappes ce mardi, William, contre les lignes ukrainiennes dans le Donbass.
Oui, l'armée russe concentre son effort sur les villes proches de la ligne de front dans le Donbass. On entend sur place les tirs d'artillerie, des pluies d'obus qui se fracassent depuis cette nuit sur les positions ukrainiennes. Objectif, créer des brèches sur cette ligne de contact. Et pour cela, Moscou frappe en profondeur les installations militaires avec des missiles de longue portée pour perturber les approvisionnements logistiques. Les Russes revendiquent la destruction de 13 places fortes de l'armée ukrainienne. Mais les soldats ukrainiens tiennent. Dans le Donbass, 7 attaques ont été repoussées au cours des les dernières heures, indiquait tout à l'heure un colonel à Kiev. Par ailleurs, 7 cibles aériennes russes ont été détruites, un avion, 4 drones et 2 missiles de croisière. Outre le Donbass, le Kremlin accentue la pression sur 2 autres zones, Kharkiv, la deuxième ville du pays qui reste bloquée par des bombardements d'artillerie, et Mariupol au sud-est où un cessez-le-feu de 2 heures a été proposé par les Russes pour obtenir la reddition des derniers soldats ukrainiens qui ce soir combattent toujours dans la ville portuaire.
William Molinier à Kiev pour Europe 1. Selon un haut responsable européen, 10 000 à 20 000 mercenaires de la société privée Wagner se battent actuellement aux côtés de l'armée russe en Ukraine ainsi que des combattants syriens et libyens. Le haut niveau de l'inflation va durer, prévient le Fonds monétaire international, conséquence directe de cette guerre en Ukraine qui s'installe dans le temps. Le FMI renvoie donc à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro à 2,8% cette année. Il ne prend pas beaucoup de place dans votre poche, mais il est mauvais pour la planète. Le ticket de caisse vit ses derniers mois d'existence. À partir du 1er janvier prochain, il va disparaître des caisses des supermarchés. Mais à la grande colère de certaines associations de consommateurs, Zoé Pallier.
Oui, car avec ce décret, ce sera aux clients de demander un ticket par défaut. Il ne sera pas imprimé, pas plus que les tickets de carte bancaire. Il faut dire que ces bouts de papier finissent souvent à la poubelle. D'après la députée à l'origine de la mesure, un hypermarché utilise chaque année l'équivalent de 750 km de papier qui serait ainsi économisé. Alors ce que préconisent les associations aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir le choix, qu'on demande aux consommateurs s'il a besoin d'un ticket lors du passage en caisse. Mathieu Robin est chargé de mission chez UFC Que Choisir.
C'est une preuve d'achat qui permet d'obtenir le remboursement d'un achat. Si, mettons, le produit alimentaire que vous avez acheté est périmé, c'est aussi obtenir parfois l'échange d'un produit. Bien souvent, quand vous allez acheter des vêtements, on vous propose de pouvoir l'échanger s'il ne convient pas. Et c'est aussi très important les tickets de caisse et les tickets de carte bancaire parce que ça permet de s'assurer de l'exactitude du montant qui va être facturé.
Quant à remplacer le ticket de caisse par un courriel comme le font certaines enseignes, les associations y sont aussi opposées, notamment parce qu'elles craignent que ce soit la porte ouverte à l'envoi de publicités non désirées sur les boîtes mail des consommateurs.
Zoé Pallier, tout de suite la météo.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
Le temps pour ce mercredi, Marlène Duret. Demain, c'est un peu l'automne dans le sud et le printemps dans le nord. Hein.
Oui, Alexandre, une fois n'est pas coutume, vous sortirez les parapluies dans le sud, mais pas au nord où nous aurons vraiment ce ressenti printanier. Alors, de la pluie, oui, attendue en Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Occitanie, sur l'ensemble du golfe du Lion également, autrement dit des Pyrénées-Orientales jusqu'à Toulon, avec des pluies qui peuvent aussi passer à l'orage, hein, s'accompagner de quelques orages entre le Roussillon et le sud du Massif central, et puis des averses. On en attend, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais pas avant l'après-midi. Et puis enfin, sur une bonne moitié nord, là, c'est plutôt un dégradé, on va dire, de moins en moins nuageux à mesure qu'on se rapproche des frontières du nord et du nord-est, donc entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Vraiment, ce sera une très très belle journée. Les températures, eh bien, c'est au pied des Pyrénées qu'il fera le plus frais. 11 degrés à Tarbes, 12 à Biarritz, contre 22 à Ajaccio, 21 à Lyon, Grenoble, Marseille, comptez 20 degrés à Paris, 15 sur la pointe bretonne et seulement 14 à Toulouse.
Merci Marlène Duret, on vous retrouve à minuit sur Europe 1. Dans un court instant, c'est Top à Wall Street. Et puis l'invité politique, Jean-Paul Garot, porte-parole de Marine Le Pen. Il serait son ministre de la Justice si la candidate RN était élue dimanche.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Wall Street remonte la pente ce soir avec des indices en hausse malgré les inquiétudes pour la croissance mondiale.
Oui, une belle séance pour le Dow Jones qui bondit de 1,45%, 34 911 points. Le Nasdaq gagne même 2,15%. Il faut dire que les valeurs technologiques sont particulièrement en forme. On a Amazon qui bondit de 3,5%, Apple plus 1,4%, Meta plus 3%, des valeurs qui résistent donc très bien à la nouvelle hausse des rendements obligataires. Les investisseurs craignent que la Réserve fédérale durcisse sa politique monétaire face à l'inflation. Et puis la guerre en Ukraine assombrit les perspectives économiques. La Banque mondiale et le FMI ont revu en baisse leurs prévisions ces dernières heures. Mais Wall Street résiste bien avec au menu ce soir de bons résultats pour les entreprises. Johnson & Johnson monte de 3%, bénéfice supérieur aux attentes. Et c'est bien aussi pour Hasbro, le fabricant de jouets, plus 5,2%.
Bas les masques aux États-Unis pour les plateformes de VTC Uber et Lyft.
Oui, Uber et Lyft ont supprimé l'obligation du masque pour les chauffeurs et leurs passagers aux États-Unis. Et ils expliquent que les cas de Covid ont bien chuté depuis le pic du mois de janvier. Leurs actions en profitent en bourse avec un gain de 6,3% pour Uber. Lyft gagne 5%. Les grandes compagnies aériennes américaines ont aussi levé hier cette obligation du port du masque durant les vols. Et là aussi, c'est une forte hausse, plus 5,7% pour American Airlines, plus 2,2% pour Delta Airlines.
Enfin, Paris est dans le rouge après ce long week-end de Pâques, Claire.
Oui, oui, moins 0,83%, 6 534 points pour le CAC 40. Le secteur du luxe est touché par les inquiétudes pour la croissance. Hermès chute de 3,4%. L'Oréal a perdu 2,9% avant la publication de son chiffre d'affaires trimestriel ce soir. Résultat trimestriel donc meilleur qu'attendu. Sanctionné aussi le réassureur Score. L'action chute de 5,2% alors que les résultats du premier trimestre seront impactés par la guerre en Ukraine. C'est du rouge ce soir en Europe. La bourse de Londres perd 0,2%, moins 0,1% pour Francfort et pour Madrid. Milan perd 0,9% et le CAC 40 recule de 0,8% à 6 534 points.
Merci Claire Lemaître.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Dans moins de 24 heures, le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, débat que vous pourrez suivre demain dès 20h sur Europe 1. L'invité politique ce soir, Jean-Paul Garraud, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Porte-parole de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National. Elle est dans quel état d'esprit ce soir, Marine Le Pen? Vous lui avez parlé ou elle a coupé tous ses portables?
Non, elle n'a pas coupé tous ses portables, bien entendu, mais elle prépare ce débat. Mais vous savez, elle est préparée en réalité depuis longtemps. Au cours de ces 5 ans déjà, elle s'est bien sûr préparée. Elle est en campagne depuis plus de 8 mois sur le terrain. Et naturellement, elle a perfectionné, je dirais, tous ses sujets. Elle les a énormément travaillés. Et en même temps, elle s'est, je pense, révélée aux yeux de nos concitoyens qui ne la connaissaient pas finalement. Et elle apparaît comme elle est.
Alors elle se prépare.
Si vous voulez,
oui. Allez-y. Après.
Non, mais tout sonne vrai et tout sonne juste, si vous voulez. Il n'y a rien de faux. Elle est face à une élection majeure, surtout évidemment pour l'avenir de notre pays. Elle est parfaitement au fait de toutes les questions et elle est en pleine maturité et sérénité. Donc c'est vraiment le moment.
On dit que Marine Le Pen est accompagnée d'un clone, entre guillemets, d'Emmanuel Macron pour s'entraîner à ce débat.
Écoutez, on dit beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses, bien entendu, je comprends pourquoi. Mais il n'y a pas de secret particulier. Marine Le Pen, elle est comme elle est, elle travaille, il n'y a pas de subterfuge particulier ou quoi que ce soit, c'est elle. Et elle qui se présente devant les Français. On dit, vous le savez bien, que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme devant le peuple, la nation. Eh bien, c'est exactement cela, et c'est le moment pour elle de montrer véritablement qui elle est, de quoi elle est capable, et surtout de proposer une politique en rupture totale avec celle que nous venons de subir, et j'emploie bien le terme subir à bon escient, parce qu'en réalité, nous allons enfin avoir cette confrontation avec Emmanuel Macron qui va devoir répondre de son bilan. Et en cela, d'ailleurs, les conditions sont totalement différentes.
Jean-Paul Garraud, est-ce que vous êtes avec nous? Je crois qu'on a un problème de liaison, porte-parole de Marine Le Pen.
Vous m'entendez?
Oui,
allô,
ça y est, je vous entends à nouveau. Oui.
Excusez-moi. Alors oui, je suis tout à fait avec vous.
Bon, on a vu Marine Le Pen publier cet après-midi sur Twitter une vidéo qu'on peut voir sur le réseau social, un peu plus de 7 minutes, qui détaille les grandes lignes de sa présidence si elle est élue, qui étrille aussi le quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourquoi cette vidéo, précisément, à 24 heures du débat d'entre deux tours?
Mais parce que la vidéo fait partie de la communication, naturellement, et que l'on veut axer sur l'essentiel. On veut que ce débat soit vraiment très utile pour nos concitoyens. On veut fixer l'attention sur tous ces sujets et on veut bien montrer d'où nous sortons, parce qu'il ne faut pas se laisser berner par ce qu'on entend, par tous les procès actuellement qu'on nous fait, en sorcellerie quasiment, pour nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Donc nous sommes là dans... Je dirais, moi qui viens de l'UMP, qui viens des Républicains, qui a cette fibre gaulliste, qui l'a toujours été, qui finalement, je me retrouve totalement Dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, dans ce que nous portons, nous voulons montrer qu'en fait, nous voulons redonner à la France sa puissance, sa portée, et être véritablement restaurer en quelque sorte les fondamentaux de la Ve République.
Le chantage à la peur, c'est le seul argument qui reste à Emmanuel Macron dans cette campagne contre mon projet, dit Marine Le Pen.
Ben oui, enfin moi j'ai vu encore récemment, j'ai entendu et vu le président de la République s'exprimer dans quelques médias, et c'est vraiment affligeant de voir que finalement le seul argument qu'il oppose, c'est la peur de l'extrême droite et les idées simplistes caricaturales, la sorte de front républicain, lui et tous ses amis, le système en place. En réalité, il n'y a rien d'excessif dans ce que nous proposons, rien d'excessif. Si vous voulez, ceux qui connaissent un peu l'histoire de la politique se retrouvent dans les fondamentaux, comme je vous le disais, de la Ve République, et donc dans un projet qui n'a rien d'excessif, dans la mesure où, bien sûr, on fait confiance au peuple par référendum, c'est ce que nous ferons tout de suite. On fait confiance, aux représentants du peuple, aux députés, puisqu'on veut instituer une proportionnelle. Ce n'est absolument pas ce qu'on fait dans des dictatures, hein, pour parler très simplement, évidemment, bien au contraire. Et puis, ce programme, qui est surtout axé sur le pouvoir d'achat, naturellement, avec de nombreuses mesures en ce sens, et puis sur un sujet dont on parle beaucoup moins, et c'est bien regrettable, parce que c'est celui que j'ai aussi entre les mains, si je puis dire, c'est celui évidemment de la sécurité, de la lutte contre la délinquance, de la lutte contre le terrorisme, des sujets évidemment là aussi essentiels pour lesquels nous avons des programmes très aboutis avec de nombreux professionnels qui travaillent avec nous dans tous les secteurs de l'économie et d'autres.
Autant de sujets, Jean-Paul Garraud en l'occurrence, dans cette vidéo mise en ligne cet après-midi, qui sont rejetés quasiment en bout du discours de Marine Le Pen, qui repasse au second plan. Cette vidéo, vous disiez rien d'excessif. On a le sentiment que cette vidéo, justement, elle vient comme pour lisser l'image de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle a peur, Marine Le Pen, de ce qu'elle appelle ce chantage à la peur du côté d'Emmanuel Macron ?
Elle n'en a pas peur, c'est un bien grand mot. Par contre, il ne faudrait pas, évidemment, qu'à force d'avoir un matraquage de ce type, les gens soient influencés. Voilà. Si vous voulez, et il y a là une sorte de mensonges généralisés, une hypocrisie terrible qui est en train de se diffuser, où l'on veut encore une fois nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Donc par rapport à cela, évidemment notre moyen est d'utiliser des moyens de communication. Il faut bien quand même dire aussi que la plupart des médias ne nous sont pas favorables, loin de là. Donc c'est aussi, nous utilisons les moyens qui sont possibles, bien entendu.
Je m'adresse justement au magistrat que vous êtes, Jean-Paul Garraud. Et d'ailleurs, si Marine Le Pen est élue, elle a dit vouloir faire de vous son ministre de la Justice. Vous parliez du référendum, du recours au référendum. Je lis de mon côté que de nombreux professeurs de droit, des constitutionnalistes, mettent en garde justement contre ce projet de loi référendaire de Marine Le Pen pour réformer la Constitution. Ils disent attention, Marine Le Pen pourrait provoquer un coup d'État institutionnel en modifiant justement les principes fondateurs qui régissent les droits et devoirs des citoyens dans notre Constitution.
Alors écoutez, ce sujet est évidemment essentiel. Quand Marine Le Pen a donc fait état de ce projet de loi qui serait soumis donc à référendum, elle l'a fait d'une façon par conférence de presse, explication, en long, en large et en travers. J'entends un certain nombre de commentateurs effectivement qui sont très opposés. Alors ça me rappelle simplement ce qui s'était passé.
Des commentateurs qui sont des professeurs de droit.
Oui, mais alors reportons-nous à l'utilisation du référendum telle qu'elle a été faite notamment par le général de Gaulle en 1962. Et vous verrez que ce sont les mêmes, alors ce ne sont pas les mêmes personnes bien entendu, mais ce sont les mêmes professeurs, juristes et autres qui s'étaient opposés, mais avec énormément de férocité quasiment, au général de Gaulle parce qu'il voulait effectivement réformer là aussi la Constitution et notamment mettre en place l'élection du président de la République au suffrage universel. Et il y avait eu tout un débat juridique considérable à l'époque car l'opposition politique au général était très forte aussi. Alors, et tout ceci avait été tranché, l'article 11 de la Constitution avait été utilisé, le Conseil constitutionnel ne pouvait rien dire à tout cela. Donc nous revoyons finalement un débat quasiment analogue. Pourquoi ? Parce que nous voulons justement redonner à la Constitution de la Ve République une place prépondérante dans la hiérarchie des normes. Or, il y a eu depuis des années 60-70 une évolution vers des juridictions européennes, vers une idéologie très particulière qui fait qu'on s'est axé vers une sorte de mondialisation. l'inflation, avec une supériorité d'un certain nombre de normes internationales sur nos normes françaises, qui font que finalement nous perdons notre identité et notre souveraineté.
Jean-Paul
Donc
Garot.
Nous voulons retrouver notre souveraineté. Et c'est pour cela que tout ceci est tout à fait régulier. J'y ai beaucoup travaillé.
Jean-Paul Garot, je vous entends hein, faire référence au général de Gaulle. Ça a été le cas deux fois de la part de Marine Le Pen, deux références appuyées dans sa vidéo. On n'a pas l'habitude d'entendre le Rassemblement National se réclamer du général de Gaulle ou tenter de capter son héritage.
Vous savez, le général de Gaulle, c'est d'abord et avant tout, après bien sûr l'homme du 18 juin, mais ce sont les institutions de la République. C'est lui la référence, c'est lui qui l'a construit avec Michel Debré. Bon. Donc nous voulons retrouver encore une fois ces fondamentaux-là, cette place, cette souveraineté. Vous comprenez bien que le général de Gaulle et tous ceux qui ont construit la Ve République ne pourraient pas supporter aujourd'hui que toute notre souveraineté, soit notre identité soit battue en brèche, que tout ce qui faisait la France finalement se transforme. Donc nous voulons retrouver tout ceci et nous voulons faire en sorte que la norme supérieure, suprême, redevienne la Constitution. Donc je veux dire, il n'y a rien de plus démocratique que cela, pour faire en sorte justement que, sans forcément d'ailleurs sortir des institutions européennes, il n'est pas question de sortir de l'Union européenne, il n'est pas question de sortir, je dirais, de la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme, mais s'il y a un certain nombre de dispositions qui sont notre constitution, c'est notre constitution qui doit prédominer. Et ce que je vous dis là a été fait par la Pologne, a été fait par l'Allemagne, hein, qui effectivement ont eu exactement le même raisonnement. Et je ne vois pas pourquoi les Français ne pourraient pas retrouver leur identité et leur souveraineté.
Jean-Paul Garot, elle a sa carte à jouer demain soir, Marine Le Pen. Je vois à la une de la presse demain, pour elle, c'est le débat de sa vie demain soir face à Emmanuel Macron.
Ben, c'est évidemment très important pour elle, naturellement, mais pour le pays. J'espère simplement que les Français se rendront compte, évidemment, du moment historique qui est celui de cette élection présidentielle. Si vous voulez, moi, ça fait quand même très longtemps que je me bats pour la justice avec un grand J. J'ai été magistrat de terrain. J'ai bien vu la dégradation de notre société, qui est en proie de plus en plus à des... Bon, à toutes sortes d'attaques, hein, et je ne vous parle pas de l'islamisme dont nous pourrions parler longtemps. Donc tout ceci, c'est de l'avenir de la France dont il s'agit. Monsieur Macron nous a montré de quoi il était capable. Il s'est inscrit dans une continuité qui est finalement qui délaisse notre pays au profit d'une sorte de mondialisation heureuse. Et nous, les Français, on l'a subi en réalité. Alors, sans se replier sur soi, évidemment, il est question de retrouver une France forte. Voilà. Et ce moment historique, demain soir, c'est important parce que les Français vont juger en direct. Et je voudrais d'ailleurs qu'ils jugent en direct et non pas trop écoutant un certain nombre de médias qui sont quand même très critiques.
Et les Français se forgeront absolument leur opinion en regardant ce débat d'entre-deux-tours demain soir. Merci à vous Jean-Paul Garot, porte-parole de Marine Le Pen, porte-parole de la candidate du Rassemblement National sur Europe 1.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Tous les quotidiens demain matin regardent dans la même direction. Macron-Le Pen à l'heure de la grande confrontation, c'est la une du Figaro. Les deux finalistes de la présidentielle à nouveau face à face, 5 ans après un rendez-vous crucial et soigneusement préparé. C'est l'heure de la grande explication, titre aujourd'hui en France. L'affiche est la même qu'en 2017, mais les enjeux sont bien différents. Marine Le Pen, fait donc face au débat de sa vie. C'est le titre de l'opinion. Elle était devant plus de 16 millions de téléspectateurs face à Emmanuel Macron il y a 5 ans. Elle avait vu sa mort politique en face, écrit l'opinion. Marine Le Pen a mis 5 ans pour s'en relever. La Croix veut cerner Marine Le Pen au-delà des apparences. La candidate d'extrême droite poursuivant son entreprise de dédiabolisation, elle tentera aussi de convaincre demain soir de sa stature présidentielle lors de ce débat. Et l'écologie, se demande Libération. Cette fois, on en parle. L'environnement, grand absent de la campagne, qui devrait se frayer une place lors du débat d'entre-deux-tours ce mercredi, un face-à-face entre le programme insuffisant d'Emmanuel Macron et les propositions inquiétantes de Marine Le Pen, écrit Libé. 22h31, vous êtes sur Europe 1. Voici Olivier Delacroix. C'est la Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Comment allez-vous? Vous allez regarder le débat demain
Bien
soir,
évidemment.
Peut-être.
Je vais le regarder avec ma fille de 17 ans qui aura 18 ans cet été et qui s'est passionnée pour cette élection. Et je suis bien content. Enfin, j'arriverai bien évidemment tout de suite après votre édition spéciale. Hein, mais oui, je vais regarder avec attention. Je crois que c'est un des moments politiques à ne pas rater pour chaque citoyen. C'est important. de voir les deux finalistes, que l'on soit d'ailleurs d'un bord ou de l'autre, ou pas même du tout du bord de l'un et de l'autre. Je crois que c'est un moment important, parce qu'il dure combien de temps ce débat ?
Il est prévu pour durer 2h30, et vous avez raison de rappeler qu'on le diffuse en direct et en intégralité demain soir sur Europe 1, oui. Ce qui vous laissera à vous, Olivier, le loisir de le regarder vous aussi.
Exactement, et ce qui me laissera le loisir de débuter ma libre antenne à minuit, et voire un peu plus tard.
Voilà,
si,
aux alentours de minuit.
Voilà,
après notre débrief avec nos éditorialistes et la rédaction d'Europe 1.
Exactement. Non, mais ça va être très intéressant. Et puis, parce qu'il est important ce débat. Il permet de faire balancer d'un côté ou de l'autre. Donc, et bien évidemment, tout le monde se passionne pour la position de Madame Le Pen, qui, il y a 5 ans, n'avait pas réussi ce débat. Donc, est-elle mieux dans sa peau ? A-t-elle progressé ?
Va-t-elle
préparer ? En tout cas, ça risque d'être chaud. Et donc, c'est ça. C'est ce pourquoi aussi ce débat va être passionnant. Et je vous invite d'ailleurs à le regarder et à l'écouter en simultanément sur Europe 1. Parce qu'après, il y aura d'excellentes analyses sur notre antenne. Et les analyses sont importantes aussi, parce qu'ici, on va vous permettre aussi de décrypter tout ce qui s'est fait et dit dans ce débat.
Bon, on essaiera de résumer forcément en une demi-heure, un peu plus peut-être, ce qui sera dit au cours de 2h30 de débat extrêmement dense, forcément, vu le nombre de thématiques à aborder. La première d'entre elles étant le pouvoir d'achat, ce qui a été décidé par tirage au sort, puisque vous savez, Olivier, qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'étaient pas d'accord sur le thème qui devait ouvrir justement ces 2 heures de débat. C'est d'accord. Donc un tirage au sort qui en a décidé.
Il voulait commencer par quoi, en
Alors,
fait,
ça, le président ne le dit pas, non. Mais c'est le pouvoir d'achat qui ça tombe bien, puisque le pouvoir d'achat est une thématique centrale de cette campagne présidentielle.
Complètement, donc, et c'est plutôt un heureux hasard, on va dire. Voilà. Hein, comme si la main de Dieu avait comme ça... Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Voilà. On va parler en plus de choses un peu touchy demain soir. Donc, demain soir, c'est la saison inédite de Dallas qui va se dérouler. Donc, règlement de compte à Hockey Corral, enfin, comme vous voulez l'appeler. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça va être spécialement tendre entre ces deux personnes qui, on le sait, ne s'apprécient guère. Mais bon, deux animaux politiques et nous, on va se régaler. Mais en attendant, vous savez quoi ? On va se régaler pendant 2h30 sur la libre antenne.
Ah,
là.
Ça justement, je vous fais confiance pour ça.
Vous pouvez. Et on vous retrouve à 23h pour un point sur l'actu.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.